Merci Christian pour cette première partie qui nous a bien introduit. Aujourd'hui, c'est un jour particulier quand même, hein, n'est-ce pas ? Je suis sûr que ce soir, à minuit, la plupart d'entre nous ne seront pas encore endormis, contrairement à tous les autres jours de l'année. Et cette nuit, on va faire quelque chose sans doute tous en même temps, tous de manière synchronisée, entre 23h59 et minuit. On va réciter le traditionnel compte à rebours des 10 dernières secondes de 2017. Peut-être pas tout le monde, peut-être certains vous serez déjà couchés, mais en tout cas, je pense que pas mal d'entre nous. Alors, personnellement, moi, c'est un moment que j'aime bien. Je sais pas vous, mais c'est vrai que c'est artificiel. Je sais pas trop pourquoi on a décidé qu'à ce moment-là de l'année, on allait fixer la fin du calendrier et puis le début d'une nouvelle année. Ça aurait pu tomber, je sais pas, la nuit du 4 au 5 mars. Mais bon, quelqu'un dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre, a décidé que ce serait là, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, qu'on basculerait d'une année à l'autre. Alors c'est complètement artificiel, mais malgré tout, je trouve que c'est un temps quand même assez intéressant. C'est un temps fort. C'est un temps où on s'arrête et on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé. On fait le bilan de l'année écoulée. Quels ont été les temps forts de l'année? Quelles ont été les épreuves qu'on a à traverser? Et puis aussi, on essaie de se projeter dans la suite. Hein. Quels seront les défis de l'année à venir? Quels sont les projets que je vais essayer de mettre en place? Mais surtout, la question qui dépasse de loin toutes les autres, c'est quelles sont mes résolutions pour l'année qui va démarrer? Qu'est-ce que c'est, ces grandes choses que j'ai envie de mettre en place dans ma vie? Alors là, il y a plusieurs réactions possibles si vous parlez avec des gens. Les uns vont prendre 1000 résolutions qui ne vont pas être capables de tenir plus que jusqu'au 2 janvier, parce que c'est trop et du coup, ça ne fonctionne pas. Hein. Les autres qui sont un peu lassés, qui sont un peu désillusionnés, prennent plus de résolutions parce qu'ils savent que ça marche pas et même ils se moquent un peu de ceux qui en prennent en disant que de toute manière ça ne fonctionne jamais. Alors entre ces deux extrêmes, il y a toute une gamme et peut-être vous êtes dit, allez, bon, moi pour 2018 j'aimerais faire ceci ou faire cela. Et ce matin, comme on l'a déjà dit, hein, j'aimerais vous suggérer une unique résolution pour 2018. C'est ce qu'on a dit, c'est de lire la Bible en 2018. Ce qui est cool avec ce défi, c'est que c'est complètement gratuit. Même si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en offrir une très volontiers après ce culte. Vous pourrez en prendre une là derrière à l'entrée, vous pouvez vous servir, vous n'avez même pas besoin de demander. C'est quelque chose qui ne coûte rien. Peut-être que vous n'avez jamais fait ça. Et ça vous fait peut-être un peu peur. Vous dites, oula, c'est quand même un gros livre, hein. C'est plus que 1000 pages. Peut-être que vous n'avez jamais lu un livre aussi long. Peut-être que vous vous dites que finalement, ce n'est pas très utile. Pourquoi lire ça? Pourquoi pas plutôt lire un autre livre? Il y a plein de livres intéressants dans le monde. Ou peut-être que vous avez déjà lu la Bible. Peut-être que vous la lisez régulièrement. Peut-être que vous avez l'habitude de la lire. Mais quoi qu'il advienne, c'est une bonne chose, je crois, de s'arrêter un moment et de se mettre au défi. Qu'on ait l'habitude ou pas de se mettre au défi encore une fois pour l'année qui commence, de se dire je veux aimer Dieu et puisque j'aime Dieu, je veux aimer ce livre qu'il nous a laissé, je veux aimer sa parole. Ce matin, on est le 31 et j'aimerais vraiment vous laisser ça, c'est de vous encourager, de nous encourager ensemble pour 2018 à lire la Bible. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est pas moi qui vais vous encourager à ça, c'est notre Seigneur qui va nous encourager ensemble à lire la Bible en 2018. Et on va lire quelques-unes des dernières phrases que notre Seigneur nous adresse dans sa parole. Ça va être facile à trouver, si vous ne savez pas le trouver, c'est toute la dernière page de votre Bible, ou l'avant-dernière page, c'est pas dans Apocalypse au chapitre 22. C'est vraiment le point final, la clôture de toute la révélation de Dieu pour les êtres humains, ça se trouve là, Apocalypse chapitre 22. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Je vous conseille de partir par la fin, ce sera plus facile à trouver. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez aller tout de suite en prendre une, n'hésitez pas à y aller. dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Et on va lire à partir du verset 6 jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, donc au verset 21. Je vous laisse le temps de chercher. Quand j'entends plus de pages se tourner, je lirai le texte. Donc, juste un petit mot de contexte. C'est l'apôtre Jean, qui est un disciple de Jésus, qui rédige l'Apocalypse. Mais en fait, c'est Jésus qui parle, et parfois c'est un ange qui parle, parce qu'en fait, il a reçu une révélation. Et dans cette révélation, parfois c'est un ange, parfois c'est Jésus qui parle. Et du coup, enfin voilà, ça permet de bien se mettre dans le bain. Il faut se souvenir de ça quand on lit ce texte. Vous êtes prêts? Je le lis. Apocalypse 22, à partir du verset 6. Il me dit... Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part à l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez un gars, enfin vous ne connaissez sûrement pas, moi je l'ai découvert cette semaine, qui s'appelle Victor Lustig. Vous ne connaissez pas? C'est un arnaqueur légendaire. Si vous tapez sur Internet, sur Google, les plus grandes arnaques de l'histoire, vous allez sans doute tomber sur lui. C'est un homme en 1920 qui a vendu la tour Eiffel à un ferrailleur, en fait, qui voulait récupérer la ferraille pour en faire quelque chose, Victor Lustig. Donc, le but, ce n'est pas de prendre exemple sur lui, bien sûr, hein, mais c'est de comprendre par le contre-exemple. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Il a fait, bien sûr, un faux contrat dans lequel il promettait la tour Eiffel. Et dans ce faux contrat, il y avait deux choses qui sonnaient faux. La première chose, c'était lui-même, l'auteur du contrat. Il s'est présenté avec un mensonge. Il s'est présenté comme un haut fonctionnaire du gouvernement français en charge de la vente de la tour Eiffel. Et l'autre chose qui sonne faux dans son contrat, bien sûr, c'est le contenu du contrat. Le gars, il vend quand même la tour Eiffel. Hein. Alors bon, il a fait mariner le truc, ça a pris des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il convainc vraiment le ferrailleur. Et ça a marché, en fait. Et même le ferrailleur, c'était en 1920, sans doute aujourd'hui ce serait plus possible, mais à l'époque c'était encore possible. Et le gars n'a même pas porté plainte, tellement il avait honte de s'être fait avoir. Il n'a même pas porté plainte. Et en fait, le type, donc Victor Lustig, s'est fait avoir, lui, Il a essayé de le refaire une deuxième fois avec un autre ferrailleur, et l'autre était un peu moins crédule, et du coup ça n'a pas fonctionné. Du coup, voilà, il y a eu des poursuites. Mais un contrat faux avec deux choses qui clochent, hein, c'est l'auteur du contrat et c'est le contenu du contrat. On vient de lire ce passage dans le livre de l'Apocalypse, et on pourrait dire que c'est un petit peu la clôture de la parole de Dieu, et c'est en fait la clôture du traité d'alliance de Dieu avec nous. C'est la clôture du contrat que Dieu fait avec nous. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans ce texte ? J'essaie de résumer ça en une phrase. Jésus nous dit dans ce texte, je reviens. En attendant, lisez la Bible. Du coup, le titre de cette prédication, c'est le suivant, hein, Jésus revient, lisons la Bible. C'est ça qu'on veut retenir de ce texte. Jésus revient, lisons la Bible. Je vais juste faire deux remarques sur ce passage. Premièrement, nous allons voir que Jésus revient, la Bible est notre stabilité. Et deuxièmement, nous allons voir que Jésus revient, la Bible explique le salut. Jésus revient, la Bible est notre stabilité. Et Jésus revient, la Bible explique le salut. Vous n'avez peut-être pas remarqué à la lecture, mais en méditant ce texte cette semaine, j'ai remarqué qu'en fait, c'était un sandwich. Je m'explique. Le début et la fin du texte parlent un petit peu de la même chose, et le centre du texte parle d'un autre sujet. Les versets 6-7 et les versets 18 à 21, donc le début et la fin, montrent que lorsqu'on réfléchit au retour de Jésus, lorsqu'on réfléchit à la fin des temps et au jugement, la Bible est notre stabilité. Et dans la partie centrale du texte, les versets 7 à 17, on voit que lorsqu'on considère le retour de Jésus, et plus particulièrement le jugement, nous devons lire la Bible pour comprendre la bonne nouvelle en vue du salut, c'est-à-dire pour pouvoir être sauvé de ce jugement. Premier point donc, Jésus revient, la Bible est notre stabilité. De tout temps, j'ai entendu ça dans une émission, dans tout temps et à travers toutes les cultures, l'avenir suscite des interrogations, des préoccupations. Et encore aujourd'hui, hein, parmi nos contemporains, et même peut-être que nous-mêmes, on vit ça, on est préoccupé par rapport à l'avenir. Et puisqu'on est préoccupé par rapport à l'avenir, on cherche tous les moyens pour essayer de dissiper le brouillard, pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et si possible même dans les années à venir. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que la seule source fiable, la seule source stable, c'est la Bible. Jésus nous dit que ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Pourquoi elles sont dignes de confiance et vraies ? L'argument de Jésus est fort, hein, c'est parce que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui en est l'auteur. Le même Dieu qui a inspiré les prophètes. Est-ce que ce qu'avaient annoncé les prophètes s'est réalisé ou va se réaliser ? C'est hyper fondamental, hein. Le livre de l'Apocalypse et même l'ensemble de la Bible est notre seule et unique source d'information fiable pour savoir ce qui va se passer, pour nous préparer au retour de Jésus. Ça a deux effets. Le fait que Dieu soit l'auteur de la Bible et du coup que la Bible est stable a deux effets. Premièrement, ça doit nous pousser plus que tout à lire la Bible, mais surtout à aimer la Bible. Vous avez vu, Jésus, il nous dit une bénédiction ici. Hein. Il nous dit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » On doit l'aimer parce que c'est une source fiable. Et deuxième chose, ça doit nous pousser à considérer la Bible dans toutes ses parties, à ne rien en enlever et à ne rien y ajouter. C'est ce que Jésus nous dit hein, à la fin du texte, dans les versets 18-19. Hein. Bien entendu, ici, Jésus le dit au sujet du livre de l'Apocalypse, qu'on ne doit rien en retrancher, qu'on ne doit rien y ajouter. Mais il le dit, bien sûr, d'une certaine manière, on peut l'étendre à l'entièreté de la Bible. C'est la raison pour laquelle on considère la Bible dans toutes ses parties. On veut la lire en entier. C'est pourquoi on veut la lire encore et encore, sans jamais nous lasser, parce que Jésus revient. et parce qu'il nous a révélé ce qui va se passer dans sa parole. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, on passe à la deuxième remarque. Jésus revient, la Bible explique le salut. C'est ce qui est au centre du sandwich que j'expliquais tout à l'heure, hein. Entre le début et la fin, qui parle du fait que la Bible est fiable, qu'elle est stable, il y a cette partie centrale, la plus importante. C'est comme dans les vrais sandwichs, hein. Le plus important, c'est toujours ce qui est au centre, n'est-ce pas ? Ici, Jésus parle du salut. Comment être sauvé ? Oui, parce que Jésus revient. Et ce qu'il apporte avec lui, c'est ce qu'il nous dit dans ce texte, hein, il apporte sa récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et en fait, c'est un petit peu angoissant. C'est un petit peu le problème, n'est-ce pas ? C'est un petit peu de là que vient notre malaise intérieur. Ce malaise qu'on vit en réfléchissant au retour de Jésus. Jésus revient pour juger chacun en fonction de ce qu'il aura fait durant sa vie. Et ça, en fait, si on y réfléchit bien, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pourquoi ? Parce que face à un Dieu parfait, face à un Dieu saint, face à un Dieu juste, le jugement est une mauvaise nouvelle. Parce qu'on ne peut pas être à la hauteur. Aucun d'entre nous ne peut être à la hauteur. Dans ce passage qu'on vient de lire, on ne sait pas trop si c'est Jésus ou si c'est l'ange qui parle. En fait, les deux, vous avez remarqué, peut-être se mélangent un petit peu. Il semble que... Enfin, ce que Jésus nous dit, c'est qu'il doit écrire cette prophétie car le temps est proche. Il nous dit que les justes progressent dans l'injustice, que ceux qui sont sales progressent dans leur saleté, mais au contraire que les justes progressent dans la justice et que les saints progressent dans la sainteté. C'est alors qu'on a la deuxième bénédiction de ce texte. Vous vous souvenez, le premier heureux qu'on a vu tout à l'heure, ici on a le deuxième heureux de ce texte. Le premier qui disait « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre » et ici on a le deuxième heureux. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. » Alors ici, il y a pas mal de choses à expliquer pour bien comprendre ce que Jésus nous promet là. Ça peut paraître un peu bizarre, hein, ceux qui lavent leurs robes, qu'est-ce que ça veut dire ? L'arbre de vie, entrer par les portes de la ville. Je prends juste une minute pour expliquer. Ceux qui lavent leurs robes. Si vous voulez comprendre ça, il vous faut lire Apocalypse, les chapitres 6 et 7. Pour bien comprendre ce que ça signifie. Dans Apocalypse 7 en particulier, Jean reçoit une information quant à ses robes. Elles ont été lavées dans le sang de l'agneau. Alors en fait, tout ça, je prends un peu de recul, tout ça, ça trouve sa source dans un grand thème de la Bible. Il y a un thème qui revient à plusieurs reprises dans la Bible, c'est ce thème de la nudité et de l'habillement. Déjà en Genèse 3, ça commence en Genèse 3, tout au début de la Bible, quand le mal entre dans le monde, le premier problème qui survient suite à la rébellion de l'humanité contre Dieu, c'est le problème de la nudité. La nudité devient en quelque sorte le symbole de notre culpabilité. Nous nous sommes rebellés contre Dieu, nous sommes coupables de commettre le mal aux yeux de Dieu. Mais Dieu couvre cette nudité dans Genèse 3, à l'époque d'Adam et Ève. Il couvre leur nudité en leur cousant des habits de peau de bête. Mais le problème demeure. Le problème du mal continue. On se rend compte qu'il faut quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Et en fait, ce problème-là de Genèse 3 sera résolu en Apocalypse 7, quand tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ recevront ces robes blanchies dans le sang de l'agneau. Ça signifie que la culpabilité liée au mal, liée au péché, sera définitivement couverte, sera définitivement résolue au moment d'Apocalypse 7. Et comment est-ce que ça fonctionne, tout ça ? Ça fonctionne grâce au sang de l'agneau, l'agneau parfait. En fait, si vous lisez toute la Bible là aussi, cet agneau, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Christ est mort à notre place sur la croix. Et par sa mort, il nous libère de notre culpabilité. Et par sa mort, il nous garantit ses robes blanches, parfaites, qui nous libèrent de la culpabilité de Genèse 3. Il nous sauve. On recevra des robes blanches. Deuxièmement, ils auront droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi quelque chose qu'on voit tout au long de la Bible. Et c'est marrant, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le début du livre de la Genèse. C'est quelque chose qui traverse toute la Bible. Cet arbre qui est la source de la vie éternelle. Mais suite à la rébellion de l'humanité, suite à l'entrée du mal dans le monde, suite à la désobéissance d'Adam, l'accès à cet arbre a été perdu. Mais on voit ici que l'accès à l'arbre est retrouvé. Donc, on avait cette culpabilité qui est résolue avec les robes blanches. On avait la mort qui est résolue par cet arbre de vie qui nous donne la vie éternelle. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils pourront entrer par les portes de la ville. Et là, je vous invite, si vous voulez comprendre ce que ça signifie, à lire le texte qui parle de cette ville dans laquelle tous ceux qui sont confiés en Jésus vivront pour l'éternité. Cette ville, elle nous est décrite dans Apocalypse, les deux derniers chapitres de l'Apocalypse, 21 et 22. Vous verrez cette ville, cette nouvelle Jérusalem. Et dans cette ville, vous savez quoi? Il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est présent. Autrement dit, ceux qui ont les robes blanches pourront entrer dans la ville. Ils pourront entrer en fait dans la présence même de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont saints aux yeux de Dieu. Leur péché a été payé par Jésus sur la croix. Jésus revient et il ordonne à Jean de ne pas tenir secret cette prophétie parce que le jugement arrive. Tout ça, ça met un lien clair hein, entre l'importance de la Bible et l'imminence du jugement. Ce que Jésus nous dit ici, en fait, c'est que pour nous préparer à son retour, pour nous préparer au jugement, ce que nous devons faire, c'est lire la Bible pour comprendre que quelque part il y a un agneau, que quelque part il y a des robes blanches. C'est en lisant la Bible qu'on pourra comprendre l'Évangile et qu'on pourra être sauvé. Mais la Bible, elle n'est pas uniquement utile pour notre compréhension initiale de l'Évangile. C'est pas juste pour comprendre l'Évangile et pour pouvoir se convertir qu'on a besoin de la lire. Elle est utile à chaque instant de la vie chrétienne. La preuve, c'est que Jean adresse le livre de l'Apocalypse à des chrétiens, à des gens qui ont déjà compris l'Évangile. Et pourtant, il leur dit tout ça, parce que c'est quelque chose que nous devons faire. On doit lire la Bible jour après jour, tous les jours de notre vie. Enfin, toutes les périodes de notre vie, bien sûr. Si on oublie de la lire un jour, c'est pas la fin du monde, hein, comprenez-moi bien. Mais on doit vraiment avoir ce désir de la lire, ce désir de la comprendre, ce désir de nous en imprégner. Ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'il revient et que par conséquent, en attendant, nous devons lire la Bible. On a vu deux choses. Hein. Jésus revient, la Bible est notre stabilité par rapport à tout ce qu'on pourrait se demander sur son retour et sur le jugement. Et deuxièmement, nous avons vu que Jésus revient, la Bible nous explique le salut. Et j'aimerais qu'on fasse un peu un pas en arrière maintenant. Pour voir ce que ça signifie d'un regard un petit peu différent. La Bible est fiable et la Bible explique le salut. C'est ça qu'on a vu dans ce passage. Hein. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la Bible, elle présente un contrat d'alliance entre Dieu et nous. C'est une alliance tout à fait particulière parce que Dieu seul s'engage. C'est lui qui fait tout dans l'alliance, n'est-ce pas? On n'apporte rien à Dieu, on ne pourrait rien faire pour lui. Mais c'est lui qui décide de donner son Fils unique, de le faire mourir sur cette croix pour nous donner le pardon, pour nous donner le salut, pour qu'on puisse retrouver une relation restaurée avec lui. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je veux entrer dans cette alliance ou pas? Et pour répondre à cette question, est-ce que je veux entrer dans cette alliance ou pas, il faut savoir deux choses. On a besoin de deux informations. La première chose, c'est qui est celui qui propose cette alliance? Est-ce qu'il est crédible? En d'autres termes, c'est est-ce qu'il est fiable ? Est-ce qu'il est stable ? C'est ce qu'on a vu dans ce passage. Hein. C'est Dieu lui-même qui est le signataire de l'alliance. Rien à voir avec Victor Lustig qu'on a vu tout à l'heure, qui s'est fait passer pour un haut fonctionnaire français. Ici, c'est Dieu lui-même qui signe son acte d'alliance avec l'humanité. Puis la deuxième chose que nous devons savoir, pour savoir si nous entrons dans l'alliance ou pas, c'est qu'est-ce qui nous est offert ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bon ? Est-ce que c'est comme avec Victor Lustig et qu'on nous offre la Tour Eiffel qui n'est pas du tout crédible ? Ou est-ce que c'est quelque chose dont nous avons besoin ? Et ici, nous l'avons vu, hein. Ce qui nous est offert, c'est le salut. C'est la résolution du problème initial de l'humanité. C'est la résolution du problème du péché. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est la vie éternelle. Ce sont ces robes blanches qui nous permettront d'avoir accès à l'arbre de vie, qui nous permettront d'entrer par les portes de la ville. L'auteur de cette alliance, c'est Dieu. Il est parfaitement fiable. Et donc, le contenu de cette alliance, c'est le salut, la vie éternelle, la présence de Dieu. Donc oui, nous voulons entrer dans cette alliance. Et puisque Jésus revient, puisqu'il revient bientôt, peut-être en 2018, espérons-le, hein, nous voulons lire la Bible encore en 2018. Quelques mots hein, par rapport à ce plan de lecture dont on vous a parlé. Bien sûr, si vous avez votre propre plan de lecture, ou si vous avez... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but, ce n'est pas d'avoir un programme d'église qu'il faut absolument suivre. Le but, c'est simplement de s'encourager les uns les autres. Et pour s'encourager les uns les autres, on vous propose ce moyen, un petit plan de lecture. Vous voyez, ici, il y a une carte pour le mois de janvier. Et ici, il y a une carte pour le mois de février. Et on fait exprès, on veut donner les cartes au fur et à mesure de l'année pour pas qu'on se sente submergé dès le début de l'année. Moi, j'appelle ça un plan de la grâce, parce qu'il y a moyen de faire des erreurs avec ça. Je vous l'explique en deux minutes. C'est un plan. Il y a deux lectures par jour. Vous verrez derrière, si vous le regardez, il y a une lecture noire, une colonne noire et une colonne bleue. Et du coup, vous avez le choix de lire juste la colonne noire, ça va faire à peu près 3 chapitres par jour, ou juste la colonne bleue, qui fait à peu près 1 chapitre par jour. Si vous êtes petit lecteur, vous pouvez lire juste la colonne bleue. Si vous êtes moyen lecteur, vous lisez juste la colonne noire. Et si vous êtes des lecteurs des gens qui aimaient lire, vous pouvez tout lire. Si vous lisez les deux, à la fin de l'année, vous aurez lu la Bible en entier. Ensuite, c'est une Bible où il y a seulement 25 jours de lecture par mois. Parce qu'on sait tous comment c'est. On peut se planter parfois et on oublie un jour. Et puis, le problème, c'est qu'après, on oublie un deuxième jour, un troisième jour. Et puis après, on se sent surmené et puis on abandonne. Tandis que là, voilà, chaque fin de mois, vous avez quelques jours pour rattraper le retard, s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous pouvez relire les passages que vous avez lus pendant le mois. Mais sinon, vous pouvez rattraper votre retard. Une autre chose, c'est qu'on a voulu faire des plans mensuels au lieu de faire tout de suite un plan annuel. Ça veut dire que vous pouvez simplement dire « Ah ouais, mais pourquoi pas ? Moi, j'ai envie d'essayer. J'essaye janvier. Allez, je prends la carte de janvier. En janvier, vous lirez le livre de la Genèse. Vous lirez l'évangile de Matthieu et vous lirez les 25 premiers psaumes. Ce n'est pas énorme. Et puis, vous testez. Si ça vous plaît, eh ben vous pourrez prendre la carte de février. Sinon, vous pouvez laisser tomber. Ça permet aussi que si vous savez que le mois d'avril, c'est toujours un mois hyper chargé dans votre agenda, vous vous dites, bon, ben, peut-être je fais une pause en avril. Ce n'est pas dramatique. Vous pourrez peut-être la lire plus tard ou vous pourrez le faire à un autre moment. Mais il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas... rater tout le train si vous loupez juste un mois. Ça permet aussi que si vous vous dites au mois de mars, ah mais moi j'avais pas entendu parler de ce plan de lecture jusqu'ici, j'ai bien envie de commencer, vous pouvez quand même commencer au 1er mars et vous synchroniser avec toutes les autres personnes de la Bible, toutes les autres personnes de l'Église. Le but, mes amis, c'est qu'on puisse en parler entre nous, c'est qu'on puisse se voir et se dire, ah moi aujourd'hui cette semaine j'ai lu Genèse 18, est-ce que t'as lu ça, moi il y avait telle chose que j'ai pas compris, est-ce qu'on peut discuter un petit peu de ça. Le but vraiment, c'est qu'on puisse se motiver les uns les autres dans notre lecture de la Bible, qu'on puisse envoyer des WhatsApp ou des mails ou des textos ou que sais-je, qu'on puisse vraiment devenir une église toujours plus qui aime la Bible et qui désire la lire. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Et puisque Jésus revient, lisons la Bible. Lisons la Bible en 2018. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier parce que cette parole, elle nous explique le moyen du salut. On veut te remercier parce que par ce sacrifice de Christ, nous avons ces robes blanches lavées dans le sang de l'agneau qui nous attendent. Nous avons cet accès garanti à l'arbre de vie. Cette promesse de pouvoir entrer par les portes de la ville pour entrer en ta présence. Seigneur, on attend de vivre ça. Et Seigneur, en attendant, aide-nous à t'aimer toujours plus. Aide-nous à aimer toujours plus ta parole. Aide-nous à nous aimer toujours plus les uns les autres. Aide-nous à prendre le temps de lire ta parole et d'en parler avec les uns et les autres. Je te demande ça pour ta seule gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.